Radio Prague, les informations. Bonjour, la police anticorruption a mené une perquisition dans les bureaux pragois de l'agence nationale Check Invest. Le taux de chômage a légèrement augmenté en juillet, puis enfin en sport en basket, battu par la France, l'équipe de République tchèque ne participera pas aux demi-finales du tournoi olympique. La police en charge de la lutte contre la corruption a mené une perquisition ce mercredi à Prague dans les bureaux de Check Invest, l'agence nationale chargée de la gestion des subventions en provenance des fonds européens et qui s'occupe également des investissements en République tchèque. Selon le porte-parole du ministère de l'Industrie et du Commerce, cette perquisition concernait une commande douteuse, commande relative à la constitution d'une base de données des bâtiments industriels et terrains que Check Invest propose aux investisseurs tchèques et étrangers. L'appel d'offres a été remporté par la société Gaflin, nouvellement créée l'année dernière et dont le directeur est une connaissance du directeur général de Check Invest. La valeur de cette base de données est estimée à plusieurs dizaines, voire centaines et millions de couronnes, tandis que certains employés de Check Invest ont été priés par la police de rentrer chez eux. D'autres se sont vus interdire de toucher à leur ordinateur. Le taux de chômage en République tchèque s'est élevé à 8,3% en juillet. Il s'agit d'une augmentation de 0,2 point par rapport au mois de juin, quand avait été enregistré le taux le plus faible depuis le début de l'année. Un peu plus de 485 000 personnes étaient donc sans emploi fin juillet, tandis que le nombre d'emplois disponibles a diminué de près de 4%, essentiellement en raison de la très faible croissance économique du pays. Les chiffres ont été communiqués ce mercredi par le ministère du Travail et des affaires sociales. Actuellement en cours de projection, le document stratégique intitulé « La politique des matières premières de la République tchèque » prévoit entre autres que après 2035, il sera nécessaire d'exploiter les réserves de charbon au-delà des limites écologiques actuellement respectées. Par ailleurs, le document du ministère de l'Industrie et du Commerce envisage également d'ouvrir de nouvelles mines d'uranium ou d'or. Le texte est vivement critiqué par les maires des communes menacées et par les écologistes. Toujours selon le document, les démarches nécessaires à la préparation de l'exploitation d'une partie des réserves de charbon situées au-delà des limites actuelles doivent être entreprises avant 2016 au plus tard. La mine de Frenstadt dans le massif des Beskides, qui contient des réserves d'environ 1,6 milliard de tonnes de charbon, est particulièrement visée. Le document sera présenté au gouvernement avant la fin du mois d'août, tout comme la conception actualisée de la politique énergétique du pays qui planifie le développement de celle-ci jusqu'en 2040. La part des élèves roms scolarisés en tant qu'handicapés mentaux a baissé ces deux dernières années. Le nombre de roms intégrés au programme destiné aux enfants handicapés représente actuellement 26% du total contre 35% en 2010. Les chiffres ont été communiqués ce mercredi par l'inspection de l'éducation nationale qui a contrôlé les écoles dites pratiques ou spéciales, écoles destinées aux enfants possédant un léger retard mental. La République tchèque est régulièrement critiquée sur ce point par la Cour européenne des droits de l'homme. En juin dernier, le médiateur de la République avait également regretté que le nombre d'enfants roms scolarisés dans des écoles spéciales était bien plus important que la part de la minorité rome dans l'ensemble de la population tchèque, considérant cet état de fait comme une discrimination. On passe au sport. Seule équipe tchèque représentée dans les sports collectifs, l'équipe féminine de République tchèque de basket ne participera pas aux demi-finales des Jeux Olympiques. Malgré une avance de 13 points dans le dernier quart-temps, les Tchèques ont en effet été battus par la France de 3 points, 71 à 68 mardi soir à Londres. En raison de ces résultats, durant la phase de groupe, la République tchèque, vice-championne du monde en 2010, termine ainsi à la 7e place du tournoi olympique. En demi-finale, la France, elle, affrontera la Russie. L'autre match opposera les États-Unis à l'Australie. Et puis toujours à Londres, aux Jeux Olympiques, le décathlonien Roman Scheberle a été contraint à l'abandon après le 100 mètres, première des 10 épreuves, mercredi matin. Le Tchèque, qui se plaint d'une blessure au talon, avait réalisé avec 11 secondes 54 le plus mauvais temps des 31 participants. À 37 ans, le champion olympique d'Athènes en 2004, également champion du monde en 2007 et premier athlète de l'histoire à avoir réalisé plus de 9000 points, a toutefois affirmé qu'il poursuivrait sa carrière la saison prochaine. À Londres, Roman Scheberle espérait dépasser la limite des 8000 points pour la 50e fois de sa carrière. On termine avec un mot de météo. Comme ce mercredi, c'est un temps très variable qui continue de régner sur la majeure partie du territoire. Jeudi, jour de la fête des Romanes, les nuages sont plus nombreux dans le nord-ouest du pays et entraînent de fréquentes averses. Les températures sont stables et varient entre 18 et 25 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narquet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Václav Richter pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
La République tchèque lance un nouveau système d'assurance des monuments historiques. Deux chaînes alimentaires sanctionnées pour des produits de mauvaise qualité. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. Dans la suite de notre programme, réservé à la rubrique Chapitre de l'Histoire, Jarka Gisiblova vous amènera à Dobšice, l'unique nécropole celtique connue en République tchèque. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Comment évaluer le patrimoine culturel d'un État? Cette question s'est posée lorsque le ministre tchèque de la Culture a décidé de revoir le système d'assurance des monuments culturels. Selon le nouveau contrat signé entre le ministère et la compagnie d'assurance Cooperativa, les biens culturels et historiques en possession de l'État ont été évalués à 246 milliards de couronnes, 9,8 milliards d'euros. Ce patrimoine sera désormais protégé par un système d'assurance centralisé qui coûtera au ministère de la Culture 20 millions de couronnes, 800 000 euros par an. Le nouveau système est cependant loin de protéger toutes les richesses culturelles de la République tchèque. Le récent incendie catastrophique du château de Krasná Hvorka en Slovaquie, ou le sinistre qui a ravagé en 2005 une aile du château de Pernštejn en Moravie, nous appelle à la vigilance. Château, palais, parc, théâtre et autres monuments placés sous la gestion des 29 organisations subventionnées par le ministère de la Culture font l'objet d'un nouveau contrat d'assurance. La ministre de la Culture, Alena Hanáková, explique la nécessité et l'importance de cette mesure.
Nous sommes convaincus du fait que c'est très important parce que nous avons réussi par cette assurance centralisée à éliminer de nombreux défauts dans le système d'assurance du patrimoine culturel. Certains monuments n'étaient pas assurés du tout, certains avaient été assurés de façon insuffisante et certains contrats ne correspondaient pas aux paramètres que nous avons réussi à établir grâce au nouveau système.
La ministre admet cependant que seule une partie du patrimoine culturel et historique de l'État est assurée.
Évidemment, ce qui n'est pas assuré, ce sont les collections. Elles ont une valeur immense, mais assurer les collections d'une grande valeur historique qui est souvent impossible à évaluer pose un grand problème. Peut-être qu'à l'avenir, nous trouverons les moyens pour assurer les collections d'État, mais pour le moment, nous ne l'avons pas fait parce que la loi ne nous y oblige pas. Cependant, cette possibilité n'est pas exclue.
La protection des collections de musées et de galeries menacées par les catastrophes naturelles et les incendies, mais aussi par le vol et le vandalisme, est donc un problème ouvert qui attend toujours sa solution. Alena Hanáková insiste pourtant sur les avantages que le nouveau système apporte aussi bien aux organismes concernés qu'aux contribuables.
Le montant des primes d'assurance que nous devrons payer sera pratiquement le même que celui de la période précédente. Mais les prestations d'assurance pourront être plusieurs fois plus élevées qu'elles ne le sont actuellement. On peut donc dire que le nouveau système d'assurance dans son ensemble est avantageux pour le ministère et aussi pour les organisations subventionnées.
Chaque organisation concernée payera elle-même les primes d'assurance avec les subventions qui lui seront accordées par le ministère. Les directeurs de ces organisations pourront aussi décider d'élargir dans la mesure de leurs possibilités financières la protection à d'autres biens culturels et conclure des contrats d'assurance supplémentaires. Difficile de dire à ce jour combien de moyens l'État va pouvoir épargner par ce nouveau système. Selon le vice-ministre de la Culture, Martin Sankot, les moyens épargnés ne pourront être évalués que dans quelques années à la suite des futurs dommages subis par le patrimoine culturel tchèque. Deux chaînes alimentaires de renom viennent de recevoir une amende en raison de la vente de produits de mauvaise qualité. Un signe important alors que de plus en plus de voix, côté inspection alimentaire et côté consommateur, se font entendre pour critiquer la médiocrité de l'offre de certains supermarchés. Anna Kubishta.
Nous vous en parlions la semaine dernière dans notre rubrique économique. De nombreuses initiatives voient le jour en République tchèque pour lutter contre la malbouffe et les produits de mauvaise qualité proposés dans les rayons de certaines grandes chaînes alimentaires. Après le boom des super et hypermarchés au prix cassé après la révolution de velours, les mentalités évoluent peu à peu dans le pays. Deux grandes marques viennent de se voir infliger un rappel à l'ordre. La chaîne britannique Tesco et le néerlandais Ahold devront respectivement payé 750 000 et 500 000 couronnes pour avoir vendu des produits de mauvaise qualité. Un des verdicts les plus sévères de l'inspection agricole et alimentaire. Pavel Kopcheva, porte-parole de cet organe de contrôle, évoque les problèmes les plus fréquents rencontrés dans les magasins.
Il y a toutes sortes de manquements. Un des cas les plus fréquents, c'est le remplacement de certaines composantes de base d'un aliment par des composantes moins onéreuses en omettant de le préciser sur l'emballage. Ensuite, il y a le problème de remballage des aliments qui permet de prolonger la date de péremption. Enfin, il arrive que les normes hygiéniques ne soient tout simplement pas respectées dans les magasins.
Si de nombreux foyers privilégient encore les bas prix, une vraie prise de conscience a vu le jour ces dernières années quant à la qualité de ce qui se retrouve dans les assiettes. La renaissance des marchés fermiers en est un exemple. Des initiatives comme le site web Potravenena Pranije, soit les aliments au pilori, lancés par le ministère de l'Agriculture, entendent pointer du doigt les supermarchés voyous. Et les deux amendes historiques infligées aux deux plus grands représentants de l'alimentation en République tchèque entendent être une mise en garde pour eux-mêmes et leurs concurrents. Mais une amende est-elle une peine suffisante ? Pavel Kopcheva.
Les amendes sont un des moyens de réguler la situation sur le marché des aliments au niveau de la sécurité, mais évidemment, donner des amendes n'est pas un objectif en soi. Si les manquements se répètent, l'amende suivante sera forcément plus élevée. Bien sûr, si les prérogatives de l'inspection agricole et alimentaire devaient être élargies à d'autres possibilités de sanctions dans les cas de duperie des consommateurs, nous serions satisfaits.
Selon une étude récente réalisée par l'Association des petites et moyennes entreprises, de plus en plus de consommateurs tchèques commencent à réaliser l'importance de la qualité d'un produit indépendamment de son prix. Un changement qui permet à certains d'entre eux de signaler aux organes compétents les problèmes rencontrés avec des produits de mauvaise qualité. Pavel Kopcheva.
L'inspection elle-même collecte de nombreuses informations issues des inspecteurs sur le terrain, mais aussi d'autres organes d'État. À partir de là est créé un plan de contrôle. Mais depuis quelque temps, les interventions des consommateurs eux-mêmes se font de plus en plus importantes. Ils peuvent contacter l'inspection, mais aussi d'autres organes de surveillance alimentaire dans le pays et faire part de leurs découvertes. Les organes concernés sont alors obligés d'aller effectuer des contrôles.
Les deux chaînes de supermarchés incriminées devront aller devant les tribunaux si elles entendent protester contre la décision de l'inspection alimentaire.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Vers 400 avant Jésus-Christ, les Celtes s'installent en Bohême. C'est d'ailleurs le peuple celte des Boyens, Boyaemum, qui donnera son nom à la Bohême. La présence des Celtes sur le territoire tchèque est attestée par 6 oppidas, dont Závist, près de Prague, est le plus connu. Elle est attestée aussi par de nombreux objets en fer et en bronze recueillis par les fouilles des oppidas. En revanche, la petite commune de Dobšice, à l'est de Prague, est l'unique site en République tchèque à offrir les vestiges d'une nécropole celtique. Un total de 27 tombes richement dotées d'armes, de bijoux et de divers outils, découverts en 1899. Jelka Gisublova vous invite sur le lien d'une trouvaille fondamentale pour la documentation de la culture celtique sur notre territoire.
Chapitre de l'histoire. Cette découverte de valeur inestimable réalisée à la fin du 19e siècle par l'archéologue Jan Hellich se trouve à l'origine du musée de la civilisation celtique inauguré en 2008 à Dobšice, une commune de 200 habitants près de Kolíně. On écoute l'adjoint du maire Oldřich Novotný.
Keltové kdysi na našem katastru měli pohřeby.
Jadis, le territoire de notre commune accueillait une nécropole celtique. Pendant près de 30 ans, entre 1899 et 1927, Jan Hellich, qui a mené des fouilles sur les lieux, a découvert 27 tombes de la période laténienne. Deux tombes de guerriers celtes retrouvées sur les lieux font partie des collections du Musée national de Prague. Une autre est exposée dans notre musée. Tous les objets retrouvés ont été documentés et répertoriés. Dobšice est en effet l'unique nécropole en République tchèque à avoir fait l'objet d'une documentation scientifique détaillée et complète. La découverte a été réalisée dans le champ de mon arrière-grand-père, Josef Stekli. Lors de l'extraction du sable, on a repéré des tombes et des armes.
Le musée de Dobšice offre un témoignage exceptionnel sur les rites funéraires des Celtes, complète Hanna Novotná, qui sert de guide.
To muzeum vzniklo právě díky pohřebišti, které tady máme. To bylo objeveno roku 1899.
Le musée a pu être inauguré justement grâce à la découverte de la nécropole en 1899 dans un champ à l'ouest de la commune. Située sur une petite colline, la nécropole est longue de 300 mètres. Les tombes et les objets trouvés datent des 4e et 3e siècles avant notre ère. 8 des 27 tombes découvertes sont des tombes féminines, 5 masculines, 3 sont des tombes d'enfants. Les autres ont été endommagées par l'extraction de sable au point qu'il est impossible d'établir avec précision de quelle tombe il s'agit.
La civilisation celtique se divise en plusieurs périodes. Hanna Novotná s'arrête sur celle de Hallstatt qui couvre les 6e, 5e siècles avant Jésus-Christ.
À cette période, les Celtes enterraient leurs morts sous des tumulus, soit des proéminences recouvrant une sépulture et consolidées par de gros blocs de pierre. Pour se faire une idée des dimensions d'un tumulus, rappelons que des ossements de chevaux ont été retrouvés sur certains d'entre eux. La nécropole de Dobšice remonte à la culture laténienne plus récente, qui va du 4e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette période est caractérisée par des nécropoles plates qui ressemblent aux cimetières actuels. Les morts y étaient enterrés à 2 mètres de profondeur, parfois même dans des cercueils de chêne. Ici, à Dobšice, les Celtes reposent de manière à ce que leur tête soit tournée vers le nord, la pratique la plus répandue à l'époque.
L'immortalité de l'âme était une des croyances des Celtes qui croyaient également en un au-delà. L'autre monde celtique se situe à l'ouest, au-delà de l'horizon de la mer, dans des îles magnifiques. En ce qui concerne les objets découverts sur le site funéraire, Hanna Novotná détaille encore.
Běžně se nacházela keramika, běžně se nacházely kančí, hovězí a jehněčí kosti, protože Keltové věřili na posmrtný život, tudíž
to. La céramique est la trouvaille la plus courante à côté des os de sanglier, de bœuf et d'agneau, car la vie après la mort était une des croyances des anciens Celtes, raison pour laquelle on donnait de la nourriture aux défunts. Les tombes féminines abritent de nombreuses parures et des fibules volumineuses. Les femmes qui portaient de leur vivant des parures et des bijoux étaient enterrées avec celles-ci, et les hommes, s'ils étaient des guerriers, avec leurs armes. Ceci dit, il ne fait pas de doute que la tombe exposée au musée de Dobšice est une tombe de guerrier. La lance est à côté de sa main droite, tandis que l'épée de fer est accrochée à sa ceinture.
Le musée de la civilisation celtique de Dobšice nous familiarise avec la culture de ce peuple et son héritage pour le présent. Les Celtes amènent avec eux l'usage des outils tels que le moulin rotatif ou le tour de potier. Ils maîtrisent l'art du feu, l'exploitation des minerais de fer, l'usage du cuivre, du bronze et du fer. Ces métaux sont réservés à la fabrication d'outils et d'armes, mais aussi de merveilleux objets d'art tels que bijoux, vases, statuettes, parures, torques, etc. L'exposition continue en dehors sur un terrain pour enfants qui est conçu comme un oppidum celte et constitue une sorte de musée en plein air. Il y a une forge, un four à pain, une ferme, un habitat celtique, un grenier, un lieu de culte et des palissades. Le tout présente une citadelle celtique. Hanna Novotná nous montre un bâtiment celte grandeur nature.
Tato pozemnice je 3x5 metrů velká.
Cette maison typique des Celtes fait 3 mètres sur 5. Elle est construite avec des matériaux facilement disponibles à proximité. Du bois de chêne pour la carcasse du bâtiment et pour la charpente du toit, du torchis, un mélange humide de terre, de sable et de paille, et de la taille pour couvrir le toit qui descend très bas pour protéger les murs des intempéries. La moitié de la maison est enfoncée dans la terre, ce qui garantit les qualités d'isolation thermique du bâtiment.
Le musée de la civilisation celtique de Dobšice expose par ailleurs une tête de druide taillée dans le bois. Les druides constituent une classe sacerdotale héritière et gardienne du savoir. Ils présidaient les cérémonies religieuses, éduquaient les jeunes, soignaient les malades par la vertu des plantes et des rites, prédisaient l'avenir. La tête de druide de Dobšice n'est toutefois pas authentique. L'unique objet authentique du genre a été découvert en 1943, pas loin d'ici, à Mšetské. La tête de druide Mšetské Žehrovice est fabriquée en marne, un matériel typique de la culture celtique en Bohême. Le public aura l'occasion d'admirer cet objet unique créé au IVe siècle avant notre ère à l'exposition d'art celte qui aura lieu en 2012 à Stuttgart. Contrairement à Dobšice, Mšetské Žehrovice est un lieu de culte. Des historiens supposent que c'était ici le centre de druidisme en Bohême celtique et que des sacrifices, parfois humains, mais plus généralement d'animaux, y étaient pratiqués. Précisons avant de conclure que la nécropole celtique de Dobšice se trouve dans un champ juste derrière la commune, sur une proéminence au-dessus de la rivière Cidlina. D'un eau, elle procure une vue insolite. Ses contours se dessinent nettement dans leur état du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et le blé qui y pousse est plus bas par rapport au reste du champ.
Dans la rubrique chapitre de l'histoire, Jirka Gisebová vous a amené à Dobšice, l'unique nécropole celtique connue en République tchèque. C'était la reprise d'un programme diffusé pour la première fois le 14 septembre 2011. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.